RCF.
Alors toute cette semaine, nous essayons de vivre ce temps pascal en comprenant mieux ce qu'est la résurrection. Nous le faisons avec le père Christophe Dansette. Bonjour.
Bonjour Madeleine.
Vous êtes prêtre du diocèse de Lille. Vous êtes intéressé par le mystère du Christ et notamment la résurrection. Alors nous avons parlé dans les précédentes émissions des petites résurrections, celle d'aujourd'hui, celle que nous vivons en ayant foi au Christ vivant. Eh bien on parle aujourd'hui de la résurrection de la chair, celle de la fin des temps. On entend beaucoup parler du jugement dernier. Qu'est-ce que ça veut dire le jugement dernier, Père Christophe ?
Alors permettez-moi de m'arrêter d'abord sur le mot jugement. Au sens où on prend des images pour parler de ce qu'on ne connaît pas. Toutes ces réalités qui vont arriver à la fin des temps, par nature, vous comme moi, nous ne les avons pas vécues. Et donc on est obligé pour en parler d'utiliser des concepts qui viennent de notre vie actuelle, mais qui nécessairement ne sont pas très adaptés pour parler du futur. Le mot « jugement », nous, il évoque quelqu'un, c'est cette dame-là, les yeux bandés, qui va peser à la balance pour voir si de quel côté penche la balance. Je crois que le jugement, quand on l'applique à Dieu, ne se résume pas à ça. Et on parle aussi de justification. La justification, c'est quoi ? C'est le Christ qui a la capacité de rendre juste. Grosse différence entre un juge terrestre et le juge céleste. Le juge terrestre peut vous déclarer innocent ou coupable, mais il ne peut pas faire qu'un coupable devienne un innocent. Le Christ, lui, a une capacité qui est tout à fait unique, à savoir qu'il est capable de vous purifier de votre péché. Il est capable de vous justifier et de faire en sorte que vous, qui êtes pécheur, vous soyez juste devant Dieu. Donc derrière la notion de jugement, n'allons pas trop vite à imaginer, encore une fois, un tribunal à la mode trop humaine, parce que le Christ, il est aussi celui qui rend juste et qui œuvre par toute sa vie pour nous rendre juste. Alors, traditionnellement, quelqu'un comme Thomas d'Aquin, par exemple, va distinguer trois jugements.
Alors, saint Thomas d'Aquin, peut-être deux mots pour le resituer un petit peu aussi dans l'histoire de l'Église et de la théologie.
Thomas d'Aquin, immense théologien du Moyen-Âge, dominicain, auteur d'une prodigieuse somme théologique. On l'a appelé dans l'Église catholique le docteur commun. La pensée de Thomas a irrigué toute la réflexion théologique pendant des siècles, et encore aujourd'hui, elle est très présente et très vivace. Donc Thomas, il distingue trois jugements. Le jugement particulier, au jour de votre décès, à ce moment-là, vous êtes jugé sur la vie que vous avez menée. Deuxième jugement, le jugement à la fin des temps, celui qui sera le jugement général de toute l'humanité, de toute la création. Et puis, un jugement, aujourd'hui, pendant votre vie présente, qui est tout ce que le Seigneur fait dans votre vie pour vous conduire à la sainteté. Tel ou tel épisode de ma vie, c'est déjà Dieu qui est à l'œuvre pour essayer de me transformer et pour me conduire à lui.
C'est ça qu'on appelle aussi un jugement, en fait.
C'est ce que Thomas va appeler jugement. N'oubliez pas que la notion de jugement et la notion de règne sont très liées. Nous, on est habitués à une séparation des pouvoirs qui fait qu'il y a d'un côté le pouvoir judiciaire, de l'autre côté l'exécutif et le législatif. Tout ça, pour la pensée des anciens, ça n'existe pas trop. Donc, juger et gouverner, c'est la même chose.
Alors, vous avez évoqué justement dans le deuxième jugement de saint Thomas d'Aquin, la résurrection de la chair. Qu'est-ce qu'on peut comprendre avec ce terme ? Parce que c'est vrai que c'est parfois un peu confus.
Alors, c'est vraiment une grande question. Je crois que c'est un point bloquant pour énormément de gens. Évidemment, vous avez la vision d'Ézéchiel avec les os qui ressortent de la terre et puis toute la chair qui s'assemble autour des os et puis vous avez l'impression que la personne reprend vie. C'est quand même une vision qui, pour nous, pourrait devenir très matérialiste. C'est difficile de vous répondre exactement sur ce qu'on veut dire par résurrection de la chair. Je peux vous dire ce que moi j'en crois, mais je ne suis pas sûr à 200% de vous dire là la pensée de l'Église. Pour moi, la chair, elle est, au fond, notre interface avec le monde. Tout ce que je sais, tout ce que je connais, tout ce que j'appréhende passe par la chair. La chair, c'est ce grâce à quoi je peux aimer. Toutes mes relations humaines passent à travers la chair. C'est ce que je vois, c'est ce que j'entends, c'est ce que je sens, c'est ce que je touche. Donc, la chair, pour moi, elle synthétise toute notre histoire. Et c'est toute notre relation aux autres, au monde, et largement à Dieu aussi, qui est compris dans la chair. Pour moi, dire résurrection de la chair, c'est dire résurrection d'une existence. Ça n'est pas dire que ce sont des pieds et des bras qui vont ressusciter. C'est dire, c'est ta vie, celle que tu as menée, qui va ressusciter. Donc, la résurrection de la chair, pour moi, c'est une promesse, à savoir que la vie éternelle ne serait pas une deuxième existence sans lien avec la première, mais que c'est bien l'existence que j'ai menée qui va entrer dans une nouvelle dimension, qui va entrer en Dieu, et qui portera du fruit bien au-delà de tout ce que je peux voir ou penser.
Vous disiez qu'il y a ces trois jugements, donc il y a une fin des temps.
On croit, nous, à la fin des temps. Le Christ s'est présenté comme celui qui serait déterminant pour cette fin des temps. C'est peut-être une des choses les plus choquantes quand on lit l'Évangile, c'est que Jésus dit, de la manière dont vous êtes positionné vis-à-vis de moi, dépend ce qui adviendra à la fin des temps. Et la fin des temps, je crois, est quelque chose d'extrêmement important. Jésus l'annonce de plein de manières. Probablement d'ailleurs que les premiers chrétiens l'attendaient pour très peu de temps après la mort et la résurrection du Christ. Et puis progressivement s'est imposée l'idée que cette fin des temps était remise à un avenir lointain, mais elle est essentielle. À savoir que s'il y a fin des temps et s'il y a jugement, un jour Dieu prononcera une parole sur le monde. Et Dieu dira ce qui dans ce monde a été véritablement ce qu'il devait être et ce qui n'était pas conforme au projet de Dieu. On attend cette parole qui fera la distinction entre ce qui est juste et ce qui est injuste. Et la fin des temps n'est pas un prétexte pour ne rien faire aujourd'hui en s'en remettant, en disant « de toute façon, il y aura le jugement à la fin des temps, donc autant ne pas m'en préoccuper aujourd'hui ». Au contraire, c'est parce que notre histoire a un sens, c'est parce que notre monde va vers ce jour où se révélera sa signification cachée, que nous devons agir dès maintenant, dès aujourd'hui, pour essayer de rendre le monde plus conforme à ce que Dieu veut qu'il soit. Donc, la perspective de la fin des temps, c'est pas simplement un truc très lointain qu'on pourrait regarder de loin. Non, c'est une promesse que le Christ nous fait. Un jour sera le dernier jour, et ce jour-là apparaîtra en vérité ce qu'ont été nos vies, ce qu'a été le monde. Et nous devons vivre aujourd'hui de cette espérance.
Est-ce qu'il faut craindre ce jugement ?
Il faut le craindre, oui, si derrière le mot crainte, vous mettez cette espèce d'immense respect de Dieu qui va vous mettre en mouvement. Craindre, si c'est pour avoir peur et se cacher sous votre lit, honnêtement, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut aussi se rappeler que au dernier jour, nous serons jugés par un ami, le Christ. Nous serons jugés par le Christ. Ça, c'est ce que dit saint Jean. Le Père a remis le jugement d'entre les mains du Fils. Or, le Fils s'est fait homme. C'est quelqu'un qui connaît mieux que nous ce que nous sommes. Il sait ce que c'est qu'une humanité. Et on va être jugé par quelqu'un qui, toute sa vie terrestre, a œuvré pour sauver les hommes. On sera jugé par celui qui relève la femme adultère. Vous comprenez que c'est pas être jugé simplement par un juge quelconque. On va être jugé par la personne la meilleure que la terre ait jamais portée. Donc, on peut se fier à ce jugement. Et on peut avancer vers le jugement, je crois, avec une grande confiance. Celui qui nous jugera sait ce par quoi nous sommes passés. Donc, il ne faut pas craindre au sens d'avoir peur. Il faut craindre au sens de cette crainte de Dieu qui véritablement nous invite à transformer nos vies pour essayer de les rendre semblables à ce que Dieu veut qu'elles soient.
Pourquoi, d'après vous, Père Christophe, est-ce que finalement il y a autant de réticence à croire en la résurrection, puisque cette foi peut nous conduire qu'à ce qu'il y a de meilleur, pour nous, pour les autres? Pourquoi est-ce qu'on est aussi réticent à croire à la résurrection? Elle est bénéficiaire pour nous, en quelque sorte.
Alors, il y a véritablement la crainte de se laisser abuser. On ne veut pas nous bâtir des espérances illusoires. Et aujourd'hui, dans un monde très matérialiste, au fond, au sens où, pour nous, ce qui existe, c'est ce qu'on peut toucher, ce qui existe, c'est ce qu'on peut démontrer. On est dans un monde qui est scientifique au sens fort, donc les choses qui ont le plus de valeur, les choses qui sont le plus solides, sont celles qui sont prouvées scientifiquement. Et on accorde beaucoup plus de valeur à la médecine qu'à la poésie. Et pourtant, un monde sans poésie risquerait d'être terriblement triste. Mais on vous dira que la poésie, c'est pas solide. Dans ce monde-là, la résurrection, qui justement est indémontrable, et restera indémontrable, paraît avoir une réalité un peu fragile. Donc je crois qu'il est difficile pour nos contemporains de croire à la résurrection, mais ça n'est pas impossible, et c'est essentiel pour eux. Encore une fois, vous pouvez ne pas croire à la beauté, vous ne pouvez ne pas croire à la bonté, et pourtant, dans votre vie quotidienne, vous en avez besoin absolument. La résurrection, pour nous, est une promesse unique, exceptionnelle, et les chrétiens doivent apprendre à en vivre. Mais il faut admettre que ce n'est pas simple.
Père Christophe Dansette, on a passé toute cette semaine avec vous, merci. Qu'est-ce qui vous touche, vous, dans la résurrection? Qu'est-ce qui vous touche?
Dans la résurrection, ce qui me touche, c'est cette promesse de voir le monde devenir tel que Dieu le veut. Quand nous voyons les images dont les médias nous abreuvent actuellement, il y a cette espérance pour moi qui est très forte de dire j'attends le jour où le Seigneur rétablira toute chose. J'attends le jour, c'est la promesse qui nous est faite dans la Bible, hein, où le Seigneur effacera toute larme de tout visage. La résurrection, elle est promesse de justice, elle est promesse de vie, elle est promesse de victoire. Et ce qui me frappe, c'est que de croire à cette promesse fait vivre et transforme la vie terrestre. La vie terrestre, s'il n'y a pas la vie du ciel, me semblerait d'une absurdité incroyable. Je ne sais pas très très bien comment je pourrais vivre sans cette espérance.
Merci Père Christophe Dansette, je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Lille. Merci beaucoup.